Bonjour et bienvenue dans le cœur culturel de Montréal, le quartier des spectacles. Nous sommes en plein centre-ville de la métropole québécoise, dans l'endroit même d'Amérique du Nord, où l'on retrouve la plus forte concentration et la plus grande diversité de lieux culturels. La température ressentie est de moins 20 degrés. Même pas peur. Avec Benjamin Sarallier et Jérémy Besset, nous sommes équipés d'abord et surtout prêts à tout pour rencontrer un DJ et compositeur qui est aussi un véritable conteur visuel. Un artiste canadien qui, en près de 30 ans de carrière, a acquis une réputation de touche-à-tout inventif et complètement décalé. Kid Koala est dans cette session-là. De son vrai nom, Erickson, Kid Koala est né à Vancouver, mais habite Montréal depuis plus de 20 ans maintenant. Il est DJ, mais également et surtout turnbaliste. Son but, ce n'est pas d'enchaîner un disque A et un disque B, mais vraiment de créer une musique par l'utilisation des platines, avec notamment des techniques comme le scratch. C'est grâce au label expérimental Ninja Tune que Kid Koala s'est fait connaître dès la sortie en 2000 de son premier album, Carpal Tunnel Syndrome. Syndrome du canal carpien, en français. Un syndrome qui peut résulter de nombreuses maladies, affections, accidents et sollicitations permanentes du poignet. Le succès de cet album est immédiat et permet à Kid Koala de multiplier les collaborations, notamment avec Dan The Automator au sein de plusieurs projets, dont Gorillaz ou Deltron 3030. Avec Kid Koala, les projets se suivent mais ne se ressemblent pas. Et si l'étendue de son spectre créatif a de quoi étourdir, ses pérégrinations ont au moins deux points communs. Sa capacité inépuisable à s'émerveiller et sa volonté d'inclure le public dans ses aventures. Depuis le début des années 2000, il a en effet sorti plusieurs albums solo dont il a dessiné lui-même les pochettes. Le dernier en date est la bande-son d'un jeu de société inclus dans la jaquette du vinyle. Il a également signé un roman graphique, livré une série estampillée Music to Draw, entendez musique pour dessiner, ou encore composé des trames sonores pour des jeux vidéo, pour le cinéma, et notamment pour la BO de Gatsby le Magnifique de Baz Luhrmann, ici avec Emily Sandé pour une reprise de Crazy in Love. Voici dans les sous-sols de la 5e salle de la Place des Arts, le plus vaste complexe culturel et artistique du Canada. Dans quelques heures, pour la 25e édition du festival Montréal en Lumière, Kid Koala va y présenter l'une de ses dernières créations, The Storyville Mosquito. Une performance de haute voltige où l'on assiste à la réalisation en temps réel d'un film muet d'animation.
Bonjour, ça va ?
Enchanté.
L'orchestre à cordes, les marionnettistes et les vidéastes qui l'accompagnent profitent de notre venue pour faire une pause et c'est dans les loges que nous accueille un quinca au visage adolescent qui n'a de cesse d'envisager la musique comme un jeu.
Est-ce que vous êtes prêt, Kid Koala? Are you ready?
I'm ready.
Wow. Bonjour, hello.
Bonjour, hello.
Hello, Eric, yes. Aka Kid Koala. Merci de nous accorder un petit peu de temps.
Yes, welcome.
Pour tenter de dessiner les contours de votre portrait, Kid Koala, j'ai choisi 5 albums. Ils ne sont pas de vous, mais ils disent tous quelque chose de vous. Est-ce que vous êtes prêt à les découvrir ?
Yes,
oui, allons-y.
Alors, je place 5 photos de pochettes d'albums devant vous, face retournée, et je vous propose de retourner l'image portant le numéro 1.
Oh,
qu'est-ce que vous voyez?
C'est un album qui s'appelle It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back by Public Enemy.
Oui.
Yes.
En français, il faut une nation de millions de personnes pour nous empêcher d'avancer. Et c'est effectivement le titre du deuxième album studio du groupe de rap américain Public Enemy. Cet album, il utilise beaucoup de samples et ses paroles sont très engagées politiquement. Il a rencontré un immense succès à sa sortie en 1988 et il est considéré comme l'un des albums les plus influents de l'histoire du hip-hop. Vous aviez 14 ans à l'époque, vous viviez à Vancouver, une ville de l'ouest du Canada, et vous aviez déjà, je crois, découvert le scratch, qui, au même titre que le sport ou le graffiti pour d'autres, était devenu un mode d'expression pour vous. Qu'est-ce que cet album de Public Enemy, Kid Koala, représente pour vous ?
Ce disque fait partie des enregistrements qui ont bouleversé ma conception d'un album. De la musique et de la production en studio. Selon moi, et encore aujourd'hui, il n'a pas été égalé en termes d'énergie. C'est très produit, très dense, parfois à la limite de la panique, de la fusion. Mais ça relevait de l'urgence. Les sujets abordés dans les paroles sont encore les mêmes dans les enregistrements actuels. Mais pour moi, gamin qui découvrait tout juste les scènes hip-hop à cette époque, avant cela, je venais du piano classique. C'était ma seule expérience de la musique. Lorsque vous écoutez un album comme celui-ci, c'est comme si un nouvel univers s'ouvrait devant vous. Ça a été un des disques qui m'a poussé à apprendre l'art du scratch, des platines et du hip-hop.
Vous aviez effectivement étudié le piano de vos 4 à vos 12 ans. Qu'est-ce qui vous a séduit dans les platines?
J'ai commencé le piano vers 4 ans, très jeune. Je faisais déjà des concours et des concerts, et je n'ai pas tellement apprécié tout ce parcours. C'était très strict sur la manière de pratiquer, sur le répertoire à jouer en concert qui était choisi par les professeurs. Ça n'encourageait pas vraiment l'expression personnelle et les déviations possibles. Il fallait jouer d'une seule manière, sinon vous perdiez des points. Sinon vous manquiez de respect à la partition. C'était donc une autre expérience de la musique que je n'ai pas trouvée très joyeuse à cette époque. A posteriori, je suis content d'avoir eu cet apprentissage du piano. Ça a eu un impact sur ma façon d'écouter le monde. À 12 ans, je pense qu'on est déjà en train de chercher des nouvelles choses. On essaye de s'attaquer à d'autres scènes. On se teste sur d'autres terrains. Donc lorsque j'ai rencontré la scène scratch, ces sons ont véritablement capté mon imagination.
Comment vous avez appris le scratch? Est-ce que vous aviez des platines à la maison à 14 ans?
Non, mon père avait une platine vinyle que je n'étais pas autorisé à toucher. Ma sœur en avait une également. Je pense qu'en fait, elle ne voulait pas que j'y touche non plus, mais elle était souvent dehors avec ses amis, donc... Quand elle n'était pas à la maison, je m'entraînais à scratcher. Il y avait une radio, un lecteur cassette et une platine vinyle par-dessus. Pas vraiment destiné à faire du scratch. Mais même sur cette installation basique, je m'amusais beaucoup à arrêter les sons, à les inverser, à les avancer. J'ai appris à m'exprimer à travers cela.
Donc vous avez appris tout seul?
Oui, j'avais 12 ans et je ne pouvais pas vraiment sortir en club ou dans les fêtes de quartier. On n'avait pas tout ça à Vancouver à l'époque où j'ai grandi. Ce que je faisais, en majeure partie, c'était écouter minutieusement les disques et tenter de reproduire les sons. Si j'écoutais un morceau, parfois je me disais « Mais comment font-ils ?» Parfois je pensais savoir comment ils avaient fait, puis j'essayais quelque chose qui au final n'était pas du tout correct, mais qui créait par accident un style différent. C'était un peu aléatoire au début. Ce n'est qu'à partir de mes 20 ans que j'ai commencé à rencontrer des DJs de scratch et à apprendre des choses.
Mais alors justement, vous disiez que vous écoutiez beaucoup de disques. Aujourd'hui, il suffit de cliquer sur un bouton pour écouter de la musique. Vous, comment vous faisiez pour vous procurer vos disques ?
Quand j'étais enfant, je tondais les pelouses. Je faisais du désherbage chez les gens. Je ratissais les feuilles et je faisais tous ces petits boulots. Juste pour gagner un peu d'argent, pour pouvoir m'acheter deux disques par semaine. C'était les jours les plus heureux de la semaine pour moi. Je me rappelle acheter mon premier 33 tours, c'était un disque de Public Enemy, Night of the Living Bashed, un des singles forts de cet album.
So then I would bring it home and I would listen to it over and over again. I would scratch, practice, and I'd have the.
Je l'ai ramené à la maison et je l'ai écouté en boucle. Je m'entraînais à scratcher, donc j'ai vraiment appris ces disques par cœur.
Pretty intimately, yeah, yeah. Like I could drop a needle on that and pretty much know what's on all the next.
Je pouvais laisser tomber le saphir au hasard et savoir ce qu'il y avait sur les 6 prochaines rotations parce que je l'avais tellement écouté.
Understanding of.
C'est vraiment devenu une partie de mon ADN vinyle, pour ainsi dire. Ce disque-là en particulier, oui.
Have you forgotten that once we were brought here, we were robbed of our name, robbed of our language, we lost our religion, our culture, our God, and many of us, by the way we act, we even lost our mind.
Here it is, bam, and you say, God damn, this is a dope jam, but let's define the term called dope, and you're thinking me funky now, no, here is a true tale. All the ones that fail, yeah. You can move if you wanna move. What it prove? It's here like the groove. The problem is this. We gotta fix it. Check out the justice and how they run it. Selling, smelling, sniffing, riffing. And brothers try to get swift in. Selling their own, rob a home. While some shrivel a bone like comatose walking around. Please don't confuse this with the sound. I'm talking about bass.
Alors la sortie de cet album de Public Enemy en 1988, coïncide avec vos débuts en tant que DJ, un DJ de chambre à coucher, pour reprendre votre expression, car vous étiez trop jeune pour les clubs. Et la sortie de cet album de Public Enemy, Kid Koala, elle coïncide aussi pour vous, si j'ai bien compris, avec votre découverte de la SP1200 de la marque américaine EMU. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer pourquoi et comment cette machine s'est imposé dans le monde du hip-hop dès sa sortie en 87 comme une machine de référence, un instrument de prédilection pour les beatmakers?
Je pense qu'à l'époque, c'était la machine de pointe. Il n'y avait que 10 secondes de temps pour sampler, mais en réalité, ça ne durait que 2 secondes. Même si vous vous sampliez en train de parler, vous aviez un « ah ». Vous ne pouviez avoir que des petits bouts. Ce qu'on essayait de recréer, c'était des pastiches de ces choses qui avaient leur propre groove et leur propre univers. Si je suis particulièrement romantique au sujet de cette machine, c'est parce qu'elle a participé aux productions de mes disques de hip-hop préférés de cette époque. Je me souviens lorsque j'ai signé mon premier contrat d'enregistrement et que j'ai commencé à faire des tournées dans le monde entier, je n'avais toujours pas cette machine. Elle était inaccessible et de nombreux producteurs avec qui je travaillais m'ont conseillé de me la procurer. Si tu en vois une, il faut vraiment que tu l'achètes. Tu vas l'adorer car elle t'oblige à être créatif avec ses contraintes. Les sons sont vraiment courts. Il faut les rendre précieux.
Les contraintes vous rendaient créatif.
Oui, et pour couronner le tout, il y avait cette patine, ce côté sale, poussiéreux. Ce n'est pas une machine hi-fi. À l'époque, c'était une machine hi-fi, mais aujourd'hui, c'est vraiment lo-fi.
C'est un son très particulier, pas très propre.
Oui, elle est un peu rude, elle produit de la distorsion. Ce n'est pas une machine qui a été créée pour faire des sons doux. Elle produit ce grain, tout ce qui y rentre en ressort plus rugueux, plus méchant. Particulièrement pour la batterie. La plupart des gens l'utilisent pour ça. Je me rappelle mixer un album, The Slew, avec Mario Caldato dans son studio. Selon lui, le son de la SP-1200 était unique, et je ne le croyais pas. Je pensais que c'était juste un sampler et que je pouvais imiter ce son. Mais quand je m'en suis enfin procuré une au studio, je me suis rendu compte que oui, elle avait un son très spécifique.
Quand avez-vous enfin eu cette machine à votre disposition? Et qu'est-ce que ça a changé ou apporté à vos compositions? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple?
Lorsque j'ai enfin eu une SP-1200, c'était après l'album Slew, donc autour de 2010-2011.
Oui, c'était très tard.
Cette machine est au centre de tout l'album 12-bit blues. J'allumais la machine et je voyais ce que je pouvais en faire. Et j'ai vraiment exploré la machine comme ça. Je sais qu'on peut l'utiliser comme un séquenceur dans un programme, mais je voulais tout faire manuellement, c'était tellement amusant. Ça vient sûrement du fait que je suis un musicien de live. Donc même sur cet album, il n'y a aucune boucle. Si ça se répète, c'est que j'ai dû le sampler de nouveau. Ça crée un autre groove. C'est peu soigné à certains endroits, mais...
Un groove particulier. Oui,
dans certains de mes enregistrements de blues préférés, on entend parfois quelqu'un taper du pied comme sur une batterie. Et la basse est jouée sur les cordes graves de la guitare.
Kid Koala mime en même temps, il tape du pied, il joue de la basse.
Les cordes les plus aiguës complètent les accords. Quelqu'un chante le lead, et parce que c'est fait en live et que le groove dérive, ils ajoutent une mesure de plus, une phrase en plus, ou bien ils ralentissent un peu pour ajouter des drames.
D'appuyer sur les boutons, c'est le geste que Kid Koala fait.
C'est tellement live que lorsque j'ai obtenu la machine, j'ai voulu jouer de cette manière, en appuyant sur les boutons, c'est super amusant.
Voilà, je vous propose de découvrir un nouvel album qui, je crois, a marqué votre parcours et donc de retourner l'image portant le numéro 2. Qu'est-ce que vous voyez?
Oh, this is Doing It to Death by Fred Wesley and the JBs.
Oui, un album Doing to Death, un album des Gibbies, l'orchestre de James Brown qui date de 1973, avec James Brown au chant et aux arrangements bien sûr, Fred Wesley au trombone, Maceo Parker au saxophone. J'ai choisi cet album Kid Koala pour un morceau en particulier qui donne son nom à l'album, Doing It to Death, car je crois savoir que la découverte de ce morceau lors d'un concert au début des années 90 de Maceo Parker est resté quelque chose de très marquant pour vous. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer pourquoi ?
Je
pense que voir Maceo Parker en concert a représenté pour moi un véritable changement de paradigme. J'étais peut-être encore à la fac à ce moment-là et un ami m'a amené à ce concert. Il fallait que je voie cette équipe. Tous les musiciens de cette tournée étaient d'anciens membres du groupe de James Brown. Je me rappelle que pour ce concert à guichet fermé, il y avait tous les âges dans le public. Il y avait des gens qui avaient été clairement des adolescents au début de la carrière de James Brown et qui avaient toujours été de grands fans durant des années. Et puis il y avait les gamins de Rave Party qui se demandaient ce qu'ils faisaient là. Et puis des familles. Des gens qui avaient l'air de travailler dans des bureaux et qui adoraient la funk. Je ne sais pas. Mais je me rappelle regarder le public et me dire que c'était une foule intéressante. Maceo et son équipe arrivaient. Ils étaient tous très bien habillés, avec des costumes comme s'ils sortaient du boulot. Nickel. Leur manière de commencer le spectacle était majestueuse. C'était extrêmement professionnel, mais aussi très engageant. Ils commençaient très doucement, juste avec le charlet. Je crois que les trois premières minutes du concert, ça faisait... Mais on entendait déjà le groove se mettre en place. Je regardais autour de moi et je voyais ce public constitué de différents types de gens et je sentais que tout le monde s'unissait autour du beat. Ce groove était tellement contagieux.
Ladies and gentlemen, there are seven acknowledged wonders of the world. You are about to witness the eighth. Standing in the spotlight on showcase, are 12 young men who have given you such tunes as the grunt. Pass the peas. Give me some more. Ladies and gentlemen, without no doubt, these are the Jay-Z.
What it taught me was that
ce que ça m'a appris, c'est que la musique était ce fil qui unissait tout le monde.
That connected everybody in the room,
le public, les gens sur scène.
The audience, you know, on the dance floor, everybody was
contributing. Sur la piste de danse, tout le monde contribuait à cette énergie.
When it was in sync, there was
quand tout le monde se synchronise dans la salle, il n'y a rien de meilleur.
That was that moment where I realized that, oh wow, live.
C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la musique live pouvait être une expérience spirituelle et pouvait connecter les gens malgré les frontières, les langues, les âges et même les différences de goûts musicaux. C'est vraiment ça. Ce groupe était tellement en rythme qu'à la fin de la première chanson, qui avait réellement duré 15 minutes, tout le monde était dedans. Ils avaient attendu ce moment. Puis, tout le concert était une expérience si exaltante. En quittant le concert, j'avais senti que cette expérience avait ravivé ma foi dans la musique live et dans le spectacle vivant, comme un membre du public et qui se dit « Oh, waouh, il faut que je participe à cette énergie ». J'ai quitté la salle et j'ai senti que quelque chose avait changé. J'avais un grand sourire. Je me sentais optimiste, inspiré. Je sais donc exactement de quel concert vous parlez.
Wow. Yo, it's 3030. I want y'all to meet Deltron Zero Hero. Not no small feat. It's all heat in this day and age. I'll rage a grave. Anything it takes to save the day. Neuromancer. Perfect blend of technology and magic. Use my rapping so you all can see the hazards. Plus entertainment where many are brainless. We cultivated a lost art of study and I brought a buddy. Automator, harder slayer, fascinating combination. Cyber warlords are activating abomination.
nations. Arm a nation with hatred, we ain't with that. We high tech archaeologists searching for knickknacks, composing musical stem packs that impacts the soul. Crack the mold of what you think you rapping for. I used to be a mag soldier, but I didn't respect orders. I had to step forward, tell them this ain't for us. Living in a post-apocalyptic world, morbid and horrid. The secrets of the past, they hoard it. Now we just board it on our futuristic spacecraft. No mistakes, black, it's our music we must take back.
Quelques années après ce concert de Maceo Parker, Kid Koala, vous avez rencontré à New York Daniel Nakamura, plus connu sous le nom de Dan the Automator, un producteur américain de hip-hop, amateur de fusion en tout genre. Cette rencontre va être déterminante pour vous car vous allez beaucoup travailler ensemble à la fin des années 90 et au début des années 2000 au sein du groupe de hip-hop Deltron 3030. Vous scratchez sur tous les morceaux, mais aussi du groupe anglais Gorillaz. Moi, c'est à une autre de vos collaborations avec Dan the Automator que j'aimerais que l'on s'intéresse, Kid Koala. Est-ce que vous êtes prêt à retourner l'image portant le numéro 3?
Ah, I love it.
Exactly. Qu'est-ce que vous voyez?
I see my friend Dan.
Je vois mon ami Dan habillé de son costume.
This is his homage to Serge.
Je crois qu'il s'agit d'un hommage à Serge Gainsbourg.
Oui, tout à fait. Il s'agit du visuel de la pochette du seul et unique album du projet Love Age qui est sorti en 2001, soit un an après votre premier album solo, Carpal Tunnel Syndrome. Et effectivement, sur la pochette de cet album, on voit Dan the Automator qui reprend la même pose que Serge Gainsbourg sur son album numéro 2 qui est sorti en 1959.
Yeah, this is a very fun... Time I remember Dan.
C'est un moment très amusant. Et je me rappelle quand Dan m'a appelé et m'a annoncé que nous allions enregistrer ce disque et que nous allions faire ce truc aguicheur et sensuel, sa version de ça. Il voulait faire sa propre version d'un album de Sade. Un peu sexy en termes de couleurs, mais aussi de paroles.
Il a brought Mike Patton et Jennifer.
Charles
from Elysian Fields.
Il a donc rassemblé en studio Mike Patton et Jennifer Charles des Elysian Fields. Il y a eu cette alchimie très puissante qui s'est installée et c'était très amusant.
Pour expliquer à nos auditeurs, c'est un album qui mélange des compositions originales et des samples qu'on peut rapprocher au trip-hop. Il y a effectivement Jennifer Charles et Mike Patton au chant. Et puis la composition de la musique, elle réunit de nombreux artistes. Damon Albarn, Maceo de La Soul, Afrika Bambaataa, Dan the Automator, qui se fait appeler Nathaniel Merriweather sur ce projet. Et puis vous. Et c'est effectivement un album concept, un album à l'esprit décalé, très second degré, qui n'a pas pris une ride 23 ans plus tard. Et au départ, effectivement, ça devait être un hommage à Serge Gainsbourg. Et puis finalement, ça a pris une tournure un peu différente, qui n'a gardé que le côté sensuel, on va dire, de l'univers de Gainsbourg. Vous dites que vous gardez un très beau souvenir de cette collaboration, mais est-ce que vous voulez bien nous expliquer vraiment comment justement vous y avez pris part à ce projet ?
With Lovage, Dan is definitely, I would say, in the director.
Oui, Dan a agi comme un réalisateur, d'une certaine manière. Il voulait faire un film, mais il a fait un album.
And so he would cast his records.
Il a donc fait un casting et il a choisi Mike et Jennifer. Ça lui a permis de créer des scénarios et des styles différents pour chaque chanson, dans les paroles ou dans les thématiques.
Parce qu'il faut expliquer que les chansons abordent chacune à leur manière un aspect des relations hommes-femmes.
Oui, je pense qu'ils ont apprécié l'expérience.
those things through songs. Came to my work on it, I would.
Moi, j'arrive souvent plus tard dans le processus d'enregistrement.
Later in the process of the studio.
J'ajoute du piquant à la production.
So I kind of add that extra, you know, special sauce or spice layers and moments. Hey, there's a bridge here. You wanna?
Tu veux ajouter un pont ici? Ça peut nous emmener là.
Yeah, I mean, I was, I guess, at the time.
À cette époque, j'étais au tout début de ma vingtaine.
Yeah, you know, at the time. In various relations,
sometimes heartbroken. Parfois j'avais le cœur brisé et je pense qu'un peu de cela est passé dans le disque.
Oui, justement.
One of them was called Koala's Lament.
Koala Laments. Yeah.
And to me, you know, I'm not.
Comme dans Koala Laments, je n'étais pas vraiment triste. Oui, peut-être que j'avais vécu une séparation, mais c'était plus lorsque j'ai écouté la musique et que Dan m'a donné les beats. Il avait déjà arrangé les cordes ainsi que d'autres éléments. Moi, j'ai juste essayé de jouer des platines pour accompagner la musique. Si celle-là semblait un peu mélancolique, un peu comme une chanson de rupture, j'ajoutais quelques scratchs comme un DJ qui aurait vécu une séparation. On avait besoin d'un moment plus calme dans l'album qui pouvait contraster avec les chansons sur lesquelles chantaient Mike et Jennifer. On avait travaillé si longtemps ensemble qu'on se faisait confiance. Il savait que j'allais créer quelque chose qui irait dans le sens de la chanson. C'était ça le plus important. Il ne s'agissait pas de scratcher par-dessus la musique, mais plutôt à l'intérieur de la musique, comme si je faisais partie du groupe.
Toujours Kid Koala, mais dans un autre registre avec l'album que je vous propose de découvrir maintenant.
Oh wow, yes. Lady in Satin by Billie Holiday.
Yay.
Ray Ellis and his orchestra.
Il y a tout juste 66 ans, Kid Koala, en février 1958. L'une des plus grandes chanteuses américaines de blues et de jazz, Billie Holiday, était en studio pour la dernière fois et enregistrer ce qui sera son ultime album, yeah. Lady in Satin. Pourquoi ai-je choisi cet album, Kid Koala? Que dit-il de vous?
About me, I don't know if it says anything about
sur moi. Je ne sais pas s'il dit quoi que ce soit de moi. Ce n'est pas mon disque. Ce qui est certain, c'est que c'est un album qui m'a beaucoup influencé. J'ai plus de disques de Billie Holiday que de n'importe quel autre artiste. C'est la chanteuse que j'ai le plus écoutée de ma collection musicale.
Louis Armstrong would be the other. But when my daughters, both of my
daughters, quand mes deux filles sont nées, la première musique que je leur ai fait écouter, c'était de Billie Holiday. On en écoute tout le temps à la maison.
It goes back to when I was a child, my father would play jazz and classical music in the house.
Ça remonte à mon enfance quand mon père écoutait du jazz et de la musique classique.
Jazz stuff, like.
Beaucoup de jazz vocal comme Louis Armstrong ou Ella Fitzgerald.
Billie Holiday, I kind of got really into in high school.
Je me suis vraiment mis à écouter Billie Holiday lorsque j'étais au lycée.
Every year, like I can find more and more stuff, interviews.
Puis chaque année, j'approfondissais le sujet. Je trouvais de nouvelles choses, de nouvelles interviews, des disques, des livres, tout ce que je pouvais trouver.
Admire.
Il y a quelque chose dans sa façon de s'exprimer que j'admire vraiment, comme sa manière d'infléchir une note. Elle n'a jamais été une chanteuse acrobatique, simplement elle chantait lentement et mettait énormément d'émotions. Et à chaque fois, ça me touche en plein cœur. Cet album en particulier. Souvent les gens ne l'apprécient pas lorsqu'ils l'écoutent parce qu'ils pensent qu'elle est beaucoup plus vieille sur ce disque.
Most of the Billie Holiday songs you've heard, this was one of her.
Que sur la plupart de ses autres enregistrements.
And her voice has changed and aged a bit.
Ce disque est l'un de ses derniers. Et oui, sa voix a changé, elle est un peu plus vieille, mais moi je la trouve extrêmement captivante. Et en plus de ça, j'ai entendu dire que c'était son disque préféré.
You know, someone who's recorded 400 sides or 400, you know.
Pour quelqu'un qui a enregistré 400 fois ou je ne sais pas, peut-être des milliers de fois. Elle a en quelque sorte produit cet album puisqu'elle a choisi les chansons. Elle a choisi l'orchestre de Ray Ellis car elle voulait travailler avec lui. C'est comme si elle avait enfin eu son mot à dire. C'était vraiment la liste de chansons qu'elle désirait interpréter. Certaines de ces chansons, même si c'était déjà la fin de sa carrière, font partie, selon moi, des interprétations les plus touchantes que j'ai jamais entendues.
So I walk a little too fast, and I drive a little too fast, and I'm reckless, it's true, but what else can you do at the end of a love affair? So I talk a little too much, and I laugh a little too much, and my voice is too loud when I'm out in a crowd, so that people have to stare. Do they know? Do they care? That it's only that I'm lonely and low as can be, and the smile on my face isn't really a smile at all.
Vous parlez de, d'émotion et à quel point ce disque vous émeut, Kid Koala. Vous, c'est par le scratch que vous avez choisi d'exprimer vos émotions, entre autres. Est-ce que vous considérez vos platines comme un instrument, au même titre justement que la voix ?
Oui, ça peut complètement être considéré comme un instrument. Je peux vous assurer qu'il faut passer du temps dessus avant de devenir un expert du scratch et de jouer avec un certain niveau de nuance. Cependant, ce que j'ai toujours aimé dans le scratch sur les platines, c'est le côté caméléon. Ça peut sonner comme n'importe quoi, ça peut provoquer toutes les émotions possibles. Vous pouvez le faire sonner de manière très atmosphérique, vous pouvez l'utiliser dans un film de science-fiction. Je l'ai utilisé dans des partitions de musique de film pour des romances ou dans une scène d'action pour un jeu vidéo. J'adore le fait que ce soit un instrument qui connecte les styles entre eux et qui se faufile. La réponse la plus courte serait oui, c'est un instrument. Est-ce que je l'utilise toujours comme un instrument ? La réponse est non. Parfois, je l'utilise comme un effet, comme un bruitage ou comme un outil narratif, parfois comme un élément rythmique, un peu comme un instrument en effet, mais aussi parfois pour faire une voix humaine ou un chant. On peut aussi l'utiliser comme élément harmonique ou mélodique, si on peut s'adapter à la tonalité. Ça dépend de ce que la chanson requiert.
That was when we still all lived at our parents' house. And he wanted to play a record for me. He took me down in the basement, or the rec room. And he put on...
Koalas. Carpal tunnel syndrome.
C'est le moment, Kid Koala, de découvrir une dernière pochette. Non, pas une dernière pochette de disque, mais l'affiche d'un film dont le réalisateur a je crois, eu une influence déterminante sur vous.
Oh yes.
Mr. Charlie Chaplin.
Yes. J'ai choisi l'affiche du film Les Lumières de la Ville, une comédie dramatique. Une comédie dramatique qui date de 1931, qui a donc été réalisée par Charlie Chaplin, qui en a composé toute la partition musicale. Au même titre que Les Temps modernes, ce film marque l'adieu de Charlie Chaplin au cinéma muet. C'est un film sonore, mais sans dialogue, qui précède son premier film parlant, Le Dictateur. Pourquoi donc, Kid Koala, j'ai choisi qu'on évoque Charlie Chaplin ensemble et ce film sans parole?
Je crois que le travail que je fais ici et que vous pouvez voir à la Place des Arts, ce spectacle que nous tournons en ce moment,
The Storyville Mosquito.
The Storyville Mosquito, yes, is...
Oui, il est directement inspiré de mon expérience des films de Charlie Chaplin lorsque j'étais enfant. Je me souviens, le premier film de Charlie Chaplin que j'ai vu n'était pas Les Feux de la Rampe, mais Les Temps Modernes. Je me souviens que ma mère m'avait fait asseoir. J'avais peut-être 6 ou 7 ans. Elle m'a dit, tu n'iras pas jouer dehors avec tes amis. Tu ne vas pas passer la journée normale d'un enfant.
Have a kid, you know, day
tu vas rester avec ta famille et tu vas regarder un film
watch a movie, you know, on a Saturday.
Un samedi.
And your grandmother's
ta grand-mère
watch
va le regarder aussi,
sister,
ta sœur, ton père et moi, nous allons tous regarder ce film.
I even remember just already being like, oh God. Really?
Et je me rappelle me dire, oh mon Dieu.
And she put the VHS tape in and it was this black
elle met la VHS
white
dans le lecteur
film.
Et il y a ce film
said,
en noir et blanc.
Oh, this is some old fashioned
stuff. Alors j'ai protesté, c'est un vieux film ça. Pourquoi me le montrer?
I think it didn't take more than maybe a minute.
Mais au bout d'une seule minute,
totally
j'étais complètement absorbé par l'histoire.
Compelled by what I was seeing and enjoying,
captivé par ce que je voyais
there,
et adorant les blagues et tout l'art qu'il y avait là-dedans.
And I remember my grandmother who
je me rappelle que ma grand-mère, qui ne parlait pas anglais, s'était mise à rire. Et jamais je ne l'avais entendu rire. Mes parents ont ri, ma sœur et moi avons ri. Pendant un court instant, nous étions tous connectés. Encore ce sentiment. Comme pour le concert de Maceo. Mais que se passait-il? Ces films libéraient des aspects de la personnalité de ces gens que je croyais connaître si bien. Tout à coup, nous nous sentions plus proches. Du haut de mes 6 ans, je me rappelle me faire la réflexion suivante. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer là, ni comment ce film a été fait. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une énergie dans la pièce et une joie évidente. J'ai dit, je veux faire ça quand je serai grand. Je me suis fait une promesse.
Even back then, you know, now that I, and it's only because we've
c'est seulement parce qu'on fait des spectacles depuis une quinzaine d'années que les gens ont commencé à me poser des questions sur la provenance de tout ça. J'ai dû chercher et je suis remonté à ce moment-là. J'essaie de réaliser ce rêve d'enfant en retrouvant l'énergie qui s'est dégagée dans la pièce. Vous pouvez créer cette énergie avec des histoires qui n'ont pas forcément besoin de mots. Ça peut être très simple. Ce qui compte, c'est la manière de présenter les choses. C'est l'amour et l'intention que vous mettez dans les détails, en termes de timing, de blagues, de moments poignants. Je crois que j'ai énormément appris en grandissant avec les films de Charlie Chaplin.
Ici, au Festival Montréal en Lumière, à l'invitation duquel nous nous trouvons au Québec, vous allez donc présenter ce spectacle, The Storyville Mosquito, le moustique de Storyville. C'est un spectacle à la fois musical et visuel qui réunit un orchestre à cordes, des marionnettes, des projections, vous aux platines pour raconter l'histoire d'un moustique qui quitte la campagne pour la grande ville afin d'essayer d'entrer lui-même dans un orchestre. Et il va être confronté à toute une série d'obstacles avant de trouver sa voie. Le fait que ce soit filmé et retransmis en direct. Au moment où je vous parle, nous sommes dans les loges du lieu où vous allez jouer et je vois la scène du spectacle avec toute l'installation que ça représente, le fait que ça soit joué et filmé en même temps. C'est une manière pour vous, en fait, une fois de plus, de créer cette synergie, cette communion, d'associer, en fait, le public. C'est le moyen que vous avez choisi, en fait, d'associer vos deux passions, l'image et le son.
Yes, there's no... There's no mystery.
Oui, il n'y a pas de mystère. Parfois, les gens me demandent à la fin du spectacle combien de temps ça vous a pris pour mettre en place tout ça. C'est une chorégraphie tellement élaborée. C'est un projet de passion en réalité. On ne sent pas la difficulté. C'est vrai que nous avons travaillé dur pour en arriver là, et le spectacle continue d'évoluer au fil des représentations. On prend toujours des notes après chaque spectacle. Oh, les gens ont beaucoup ri à ce moment-là. Que s'est-il passé ? La marionnette était coincée ? Bon, on fera en sorte que la marionnette reste coincée la prochaine fois aussi. On garde le côté live. Les choses ne sont pas figées. Rien n'est enregistré à l'avance, donc tout peut s'écrouler à n'importe quel moment. En termes de performance, c'est vraiment très enthousiasmant, car il faut toujours être très vigilant pour que tout fonctionne. Je suis constamment aux aguets. Je regarde le caméraman, le marionnettiste, savoir s'ils sont prêts. Ah, les marionnettistes ne sont pas prêts. Ils ont besoin de plus de temps. Ralentissons un peu la musique. Donnons-leur du temps. Tout ça est très sensible, vous voyez. Comme si nous étions en train de surfer. Je dis souvent que nous sommes 15 sur une seule planche de surf. Mais quand on entre dans la zone, il n'y a rien de meilleur. Le public rit, parfois il pleure aussi pendant les moments poignants. C'est un spectacle vraiment très satisfaisant pour moi. Ça combine tous mes univers préférés, mais ce qui compte, c'est l'énergie du public. C'est ce que j'ai appris des soirées funk et des soirées DJ. Nous avons besoin de l'énergie de la foule, autrement, pourquoi sommes-nous là ? Nous sommes faits l'un pour l'autre. La personnalité de chaque public va parfois changer d'une fois à l'autre. S'il y a beaucoup d'enfants, les réactions vont être très différentes à certains types de plaisanteries ou moments de comédie. On va peut-être orienter le spectacle d'une certaine manière, puis le spectacle d'après, l'énergie sera plus bagarreuse, comme si elle était ivre. Et alors nous irons dans ce sens. C'est ce qu'on aime. Ce n'est pas strict, ce n'est pas coincé.
C'est vivant.
Il faut être sur le qui-vive et partager ce moment avec le public.
Justement, parce que c'est un spectacle sans parole, vous l'avez déjà tourné dans beaucoup d'endroits du monde. J'espère que nous aurons l'occasion de vous voir venir aussi en France avec ce spectacle. Mais en attendant, nous nous réjouissons, l'équipe de Session Lab, d'avoir l'occasion de le voir ici à Montréal. Merci beaucoup, Kid Koala, pour votre temps juste avant, justement, de rejoindre vos collègues sur le plateau pour répéter.
Oui.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Je vous laisse, le moustique de Storyville m'attend, la salle est pleine à craquer et le spectacle, vous l'aurez compris, s'annonce aussi bluffant qu'émouvant. Un grand merci à Jérémy Spélanzon et à toute l'équipe du Festival Montréal en Lumière qui nous ont permis d'organiser cette rencontre. Merci aussi à mes turnballistes à moi, Benjamin Sarallier qui a réalisé cette émission, Jérémy Besset qui l'a mixée en Dolby Atmos pour une écoute immersive au casque et Xavier Gibert qui l'a produite pour RFI Labo. À très vite dans vos oreilles.